Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Nous recevons l'un des hommes clés de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui démarre évidemment au premier semestre. Il s'agit de l'eurodéputé Stéphane Séjourné, fraîchement promu président du groupe des libéraux Renew Europe au Parlement européen. Bonjour à vous, monsieur Séjourné.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Séjourné, vous êtes l'un des piliers de la Macronie. Vous avez fait vos classes au Parti Socialiste, mais en 2017, vous faites la campagne d'Emmanuel Macron. Avant d'entrer au Parlement européen, vous étiez précédemment le conseiller politique du chef de l'État. Votre tâche aujourd'hui, dégager une majorité au Parlement de Strasbourg pour faire avancer l'agenda promu par la France à 36 ans. Plus jeune que le président, donc, vous voilà propulsé, exposé sur la scène européenne.
Alors, Stéphane Séjourné, on va bien sûr parler des dossiers que vous allez défendre. Hein. Mais d'abord, rappelons que la Commission européenne s'est déplacée jeudi et vendredi à Paris pour le lancement de la présidence française de l'Union européenne. Elle ne peut pas suivre Emmanuel Macron dans ses attaques contre les non-vaccinés parce qu'il est censé maintenant assumer aussi une position plus neutre, au-dessus de la mêlée des 27 en tant que justement président de l'Union. Est-ce qu'il a d'emblée brouillé le message ?
Non, je pense pas. Je pense que la Commission européenne a d'ailleurs succédé au Parlement européen. C'est des visites qui sont traditionnelles dans la préparation de la présidence française. Ça s'est fait également sur d'autres présidences. Puis il faut pas mélanger l'ensemble des messages politiques, effectivement. Il y a un sujet sur la vaccination en France, avec des prises de position du président de la République. Et puis il y a la préparation de la PFUE. Et donc cette préparation de la PFUE se fait en toute logique avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, avec le président de la République qui est en responsabilité. Mais il faut différencier ces deux sujets. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir sur les sujets du président de la République au vu de la préparation de la PFUE sur ce sujet.
Alors avec cette présidence française de l'Union européenne dans un contexte préélectoral en France, hein, les polémiques ont commencé dès le premier jour, dès le 1er janvier, avec ce drapeau européen flottant en dessous de l'Arc de Triomphe, au lieu du drapeau bleu-blanc-rouge. Les opposants au président Macron se sont déchaînés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président, l'Élysée, a ainsi jeté de l'huile sur le feu de cet euroscepticisme qui est encore très latent dans une bonne partie de la population française, comme nous l'a rappelé un sondage publié cette semaine par l'Institut ELAB?
D'abord, cette polémique a dit quand même quelque chose sur notre rapport au patriotisme, au drapeau. Et donc il n'y a pas de substitution de la souveraineté nationale sur la souveraineté européenne. La construction politique de l'Europe s'est faite aussi avec des objectifs de paix, d'union, mais jamais en substitution des souverainetés nationales. Et donc on se retrouve dans une espèce de polémique évidemment qui enfle au vu des échéances électorales à venir, évidemment de la campagne présidentielle, je pense notamment à la campagne présidentielle dans les prochains temps, et puis les candidats se sont donnés sur ce sujet-là. Je pense que c'était une fausse polémique, on voit bien que partout à Paris et en province, les édifices officiels sont aujourd'hui en bleu. Et donc ce sujet est un sujet d'abord d'affichage et de fierté de l'appartenance européenne. Il faut le voir comme ça. Si on veut être efficace en Europe, si on veut avoir des objectifs qui soient atteints, avec des fois même des objectifs qui datent de long terme, les objectifs français de cette PFUE, des fois ont été même portés par Jacques Chirac. Mais ne confondons pas les deux. Si on veut avoir des priorités et de l'efficacité, il faudra différencier la présidentielle de la PFUE. En tout cas, nous, on essaiera justement de trouver ces marges de manœuvre au Parlement européen. On en aura besoin dans ce cadre-là, sinon on n'y arrivera pas.
Alors, quelles que soient les polémiques, les débats qui vont être, on l'imagine bien, incessants, le fait est qu'il y a à peine 3 mois utiles pour 400 rendez-vous, 3 sommets extraordinaires, avec des objectifs concrets pour les grands dossiers en cours, des ambitions qui sont énormes, peut-être démesurées en si peu de temps. Est-ce que les 26 trouvent cette présidence française crédible ?
Déjà, la présidence française, c'est 6 mois. Et évidemment, entre-temps, il y a des échéances électorales.
6 mois raccourcis par les élections.
Mais Six mois raccourcis pour les élections, pour ce qui est des événements qu'on pourrait faire en France, puisque après on a une règle électorale qui s'applique et on ne peut plus faire d'événements officiels en France. Par contre, le travail parlementaire va continuer. Le travail de mon groupe va continuer. Et les priorités vont être les mêmes, que ce soit pendant la période de réserve jusqu'à avril, qu'au mois de janvier, avec l'objectif d'enjamber aussi cette présidentielle et que ces 3 mois que vous dites utiles se transforment en 6 mois utiles, puisqu'il faudra réaccélérer derrière la présidentielle.
Oui, votre groupe d'ailleurs, vous devez trouver des majorités parce qu'il est centriste, et il est un peu central, mais il ne peut pas se passer ni du Parti populaire européen, ni des socialistes et démocrates d'un certain point de vue. Vous allez chercher des majorités sur des sujets comme par exemple le salaire minimum européen. Alors ça, c'est... Ça va être compliqué parce que vous êtes très attendu par les citoyens, mais vous allez heurter probablement le patronat européen et peut-être même les pays frugaux qui ne voudront pas forcément d'un salaire minimum européen.
Vous savez, pour faire avancer les sujets au niveau européen, il faut d'abord comprendre les problématiques des uns et des autres et essayer de trouver une voie intermédiaire pour avancer. Notre objectif, c'est évidemment de converger sur un modèle social européen à terme. Et pour converger sur un modèle social européen, il faut que l'ensemble des pays européens puissent avoir un système de salaire minimum qui puisse converger dans les futures années. Pour cela, moi j'entends les problématiques nordiques. Les problématiques nordiques des pays du Nord, par exemple, considèrent que leur modèle social est très bon. Mais pour avoir un modèle social très bon, ils ont des syndicats très forts. Des syndicats très forts qui, par accord de branche, négocient et donc ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'un salaire minimum. Je ne peux pas dire la même chose pour les Bulgares. Aujourd'hui, qui n'ont pas ce patronat et ces syndicats forts. Et donc, il va falloir trouver des compromis. Je pense que on.
Et vous pensez les trouver, donc l'obtenir.
On est en bonne voie. Je pense qu'on peut obtenir des compromis, on peut obtenir une voie de passage sur le salaire minimum. Et ça nous permettra aussi, dans les prochaines années, dans les prochains mois, de faire converger des modèles sociaux pour arriver à une meilleure homogénéisation et moins de dumping social entre les États membres au sein de l'Union européenne.
Alors, ces projets que vous portez, évidemment, il faut trouver une majorité au sein du Parlement européen, au sein des 27, mais c'est aussi des projets qui peuvent susciter la critique, l'inquiétude des partenaires des pays tiers. Alors, je pense par exemple à ce projet de taxe carbone aux frontières qui pourrait froisser la Chine. La régulation des géants du numérique, évidemment, les États-Unis vont mal le prendre. Alors, est-ce que Paris a la force aujourd'hui d'entraîner ses partenaires sur ces projets alors qu'il y a 2 bras de fer potentiels en puissance ?
Non, c'est une très bonne remarque parce que, évidemment, c'est le cœur de ce que nous, on essaye de construire depuis maintenant 2 ans, depuis que je suis élu au Parlement européen et puis depuis que le président aussi est président. C'est un modèle européen qui n'est pas le modèle américain, qui n'est d'ailleurs pas le modèle chinois et qui revendique une forme de fierté sur un certain nombre de sujets. On évoquait le Green Deal, on a des objectifs très très ambitieux, notamment sur la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, avec une neutralité carbone à 2050. C'est des ambitions très radicales, mais qui font aussi la fierté du modèle européen dans quelques mois, quand ces textes seront votés. Et en espérant aussi que ces textes-là ont une vocation un peu plus universelle, c'est-à-dire de pouvoir être après exporté dans le monde et être copié. Je pense notamment à notre système digital sur le RGPD, qui est une forme de garantie sur les droits sur Internet, par exemple. Ce système-là, aujourd'hui, est copié un peu partout dans le monde. Et il faudra que sur notre modèle écologique, sur notre modèle social, sur notre modèle digital qu'on est en train de créer, cette réglementation qui est un peu atypique, qui est la réglementation européenne, parce qu'on croit à nos libertés, parce qu'on souhaite que les consommateurs soient protégés et que ce modèle européen puisse s'exporter un peu partout dans le monde. C'est la deuxième étape. Pour l'instant, on est en train de construire la réglementation de demain qui sera la réglementation qui nous concernera pour les 30 prochaines années, je pense.
Alors, on a reproché à la chancelière Merkel d'avoir laissé la Hongrie et la Pologne dériver loin de l'état de droit. Aujourd'hui, la Commission a le droit, a la possibilité de sanctionner en coupant les subventions les États qui ont une dérive autocratique. Est-ce que la France va donner une impulsion dans ce sens ou est-ce qu'elle ne va pas hésiter pour ne pas froisser des Polonais ou des Hongrois, par exemple, pro-nucléaires, donc, qui sont ses alliés sur d'autres dossiers ?
Je pense qu'il faut différencier la Hongrie de la Pologne, déjà. La Hongrie, où on a un système de corruption massif. Et là, je pense qu'il n'y a pas photo. La Commission est très alignée avec notamment le Parlement européen et une grosse partie des États membres sur ce sujet-là. On va attendre les élections qui seront d'ailleurs assez concomitantes des élections françaises en Hongrie, puisqu'elles seront en même temps que les élections françaises. Mais il y aura sûrement des conclusions à tirer après les élections hongroises. Là, pour l'instant, c'est figé. La Pologne, un peu différent, puisque aujourd'hui, on voit bien que la Pologne part dans un système où l'indépendance de la justice, la pluralité journalistique, l'indépendance des journalistes et peut-être même leur capacité à organiser des élections est remise en cause. Pour ça, on a un système, vous l'avez dit, un système sur l'état de droit, un mécanisme qui a été voté au moment justement du plan de relance européen qui conditionne les financements européens à un respect minimum de l'état de droit. Et je l'évoquais, l'indépendance de la justice est un sujet qui est consubstantiel à l'ADN européenne. Donc sur ce point-là, je pense que et la France, et le Parlement européen, et le Conseil veulent avancer. On voit bien d'ailleurs les annonces qui ont été faites par Ursula von der Leyen qu'il n'y aura pas d'argent versé tant qu'il n'y aura pas eu d'avancée sur ce sujet-là. Moi, je pousse pour qu'on puisse déclencher ce mécanisme et que notre arsenal réglementaire et juridique au niveau européen puisse s'appliquer. Vous savez, généralement, quand on a des sanctions, elles ne sont pas là pour être appliquées, mais elles sont là justement pour prévenir. Et donc, si les sanctions n'arrivent pas à prévenir, il faudra les appliquer. Et donc, il faudra déclencher ce mécanisme et donc peut-être priver une partie des subventions européennes, la Pologne. Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que pendant la présidence française, on puisse avancer sur ce sujet-là aussi. L'état de droit, c'est le sujet majeur, en tout cas, qui tient l'ensemble des États membres ensemble. Et il ne faut absolument pas laisser une marge de manœuvre sur ce sujet-là.
Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, était en Ukraine cette semaine, sur le front du Donbass, la région qui fait sécession avec le soutien de la Russie. Il est allé assurer Kiev du plein soutien de l'Europe. On l'écoute.
La Russie a massé des troupes d'une façon tout à fait inhabituelle. Non seulement elle a massé des troupes à la frontière, mais il y a aussi cette demande de la Russie de discuter à deux ou à trois. Mais on n'est plus à l'époque de Yalta. Nous sommes là tout d'abord pour réaffirmer le plein soutien de l'Union européenne à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour essayer de résoudre les tensions à travers les négociations qui vont suivre, mais aussi à travers une position ferme et forte de soutien à l'Ukraine. Et avec l'engagement ferme et fort que toute agression militaire contre l'Ukraine pourrait avoir des conséquences désastreuses et un coût important. Et nous nous coordonnons avec les États-Unis, l'OTAN et d'autres alliés pour œuvrer à une désescalade.
On n'est plus à l'époque de Yalta, a-t-il déclaré. La dernière présidence française de l'Union européenne, c'était en 2008, avait été marquée par la guerre en Géorgie, où Nicolas Sarkozy s'était rendu pour jouer les médiateurs, déjà face à la Russie. Alors, le président Macron, lui, est prêt à aller en Ukraine pour jouer le même rôle ?
Bon, il faudra demander au président Macron, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'en 2014, l'Ukraine a choisi un modèle démocratique, qui est d'ailleurs un modèle qui est plus proche du modèle européen que des modèles autoritaires avec la révolution qu'ils ont fait. Et puis, on a un autre intérêt, nous, Européens, c'est de sauvegarder la paix et la stabilité des frontières de l'Union européenne. On travaille beaucoup avec l'Ukraine. J'ai rencontré d'ailleurs moi-même le gouvernement ukrainien qui est très attentif aux résolutions du Parlement européen, aux prises de position du Conseil européen et des chefs d'État et de gouvernement. Il me posait exactement la même question que vous sur la présidence française et sur la position du président de la République. Et évidemment que s'il y avait un conflit et s'il y avait une initiative politique à faire, j'en ai aucun doute que le président de la République s'en saisisse. En tout cas, on surveille très attentivement ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez bien que Josep Borrell était également attentif à ces questions-là et se rendra, à mon avis, régulièrement sur place. Il faut que l'ensemble de la communauté européenne puisse s'en saisir, Parlement européen, Commission et Conseil. Et le président, à mon avis, prendra sa part à ce sujet s'il y en avait besoin et si la situation changerait.
Alors, la devise de cette 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est relance, puissance et appartenance. On a quand même l'impression que toutes les affaires de la frontière est de l'Union européenne se passent plutôt loin de notre puissance, c'est-à-dire on est plutôt impuissant et ça se passe entre Vladimir Poutine et Joe Biden sans nous.
On a évidemment besoin maintenant de parler un langage diplomatique commun, c'est espèce de fil rouge européen systématique où il y a énormément de travail entre les chancelleries, mais il y a un travail aussi qui va se faire sur la boussole stratégique, sur nos intérêts de défense, sur notre politique étrangère, pour qu'il y ait un objectif, c'est au moins que l'Union européenne puisse avoir une lecture du monde et de ses intérêts stratégiques dans le monde qui soit commune. Ça va se passer pendant la présidence française. Et c'est un pas énorme sur la construction européenne pour que les capitales européennes puissent avoir un discours commun. Vous voyez la difficulté de Joseph Borrell. Il faut qu'il mette d'accord l'ensemble des 27 chancelleries à chaque fois qu'il se déplace. Et ces mots sont scrutés, sont re-questionnés. Il faut maintenant qu'on puisse avoir une instance et puis un document sur les questions de défense et d'affaires étrangères qui nous permettent d'avoir une doctrine européenne. Et donc c'est ça le travail qu'il faut mener dans les prochains temps pour que la fameuse phrase de l'Europe, quel numéro de téléphone, puisse justement se régler et qu'on puisse avoir un message politique commun.
Alors Stéphane Séjourné, on a effleuré le sujet Covid au début de cet entretien avec cette polémique née avec les propos du président Macron. Et on va revenir quand même avec une dernière question sur la situation avec ce variant Omicron. On aimerait savoir comment cette présidence française de l'Union européenne espère se tirer de cette mauvaise passe du variant Omicron. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va voir une Europe qui va imposer partout une vaccination obligatoire? Est-ce qu'il faut une Europe qui se reconfine?
Votre question est compliquée. Et si j'avais une réponse et une certitude sur l'évolution de l'épidémie, je vous avoue que je serais le premier ravi à pouvoir vous répondre. Je sais une chose, c'est qu'il ne faut pas reproduire les difficultés que nous avons eues pendant la première vague de ce Covid, c'est-à-dire un manque de coordination européenne, des fermetures de frontières, une disparité dans les règles qui sont mises d'un pays à un autre. Mais vous avez bien vu aussi que l'Europe a appris pendant cette crise. L'Europe apprend toujours pendant les crises et il y a des victoires politiques pour ceux qui croient en l'Union européenne pendant cette crise. On a eu le vaccin, on a maintenant ce fameux code-barre qui est le pass vaccinal qui peut être utilisé partout en Europe. Et donc on a réussi à mettre des outils au service des citoyens au niveau européen pour garantir la liberté de circulation, garantir nos libertés, garantir aussi l'appartenance de nos données, qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, par exemple, ou en Chine sur ces questions-là. Donc nous avons construit un modèle européen de la santé empiriquement, par le bas, en pleine crise, et il faut pouvoir le perfectionner, on va dire, pendant cette crise Omicron et ce renouveau du variant Omicron. Donc voilà, les enjeux seront là pour le président de la République, pour la présidence française évidemment, garder cette solidarité européenne et peut-être reconstruire une gestion de crise qui nous permette de garantir nos libertés et notre libre circulation partout en Europe.
Merci Stéphane Séjourné d'avoir été notre invité de la rentrée. Merci à vous, les téléspectateurs et les auditeurs, pour leur fidélité à France 24 et RFI cette année encore. Bonne année à tous et à bientôt. En sol